Bonjour, chers amis, je suis en retard. Pardon. Pardon infiniment pour mon retard. Seigneur notre Dieu, nous sommes réunis autour de ta parole et nous te présentons, Seigneur, notre respect, notre considération pour tout ce que tu dis dans ta Bible, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Voilà, chers amis, je suis en retard parce que la machine pour épurer le blé démarrait mal. Il y a deux personnes, mais plus un enfant, deux hommes qui la font tourner, et je suis obligé de commencer tout de suite. Prenons Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 7. Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 7. Et veuillez me pardonner, la machine, il y a des hommes qui travaillent sur une machine pour nettoyer le blé. Ça n'allait pas tout à fait comme je l'espérais. J'ai dû rester plus longtemps. Et voilà, je suis en retard. Apocalypse 10, versets 1 à 7. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, donc les sept tonnerres représentent la majesté et la souveraineté de la parole divine. Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. » Donc quelque chose est scellé et fermé et il ne faut pas, il ne peut pas l'écrire. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Donc le mystère de Dieu s'accomplirait lors de la septième trompette. Bon, vous avez déjà entendu souvent cela, vous le voyez sur des basiliques, des cathédrales du Moyen-Âge, ça a été un thème majeur de la trompette, n'est-ce pas, qui résonne. Alors, si nous regardons dans la première aux Corinthiens, il dit ceci, au chapitre 15, verset 20. « Maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. » C'est-à-dire, il est l'annonciation concrète, réelle, et tout à fait réelle, de ce qui sera fait, de ce qui arrivera à tous les saints, à tous ceux qui croient en Dieu. Puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivons en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, donc signe avant-coureur, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Enfin viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, et après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Ça va? Vous avez ici, clairement, la manifestation de la puissance de Dieu. Et puis ensuite, dans le même chapitre, 1 Corinthiens 15, verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang, donc la vie même religieuse, la vie humaine, sans la vie du Saint-Esprit, sans la véritable relation et communion à Christ, sans être pardonné de ses péchés et né de nouveau, hein, c'est ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous nous serons changés. Car il faut que ce corps mortel, corruptible, revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole de ce qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire, ô mort, où est ta victoire, ô mort, où est ton aiguillon. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai passé un verset, mais vous voyez bien que je vous dis un mystère, c'est-à-dire une réalité divine qui s'accomplit, mais qu'on ne connaîtra que quand Dieu la dévoile. Mais ce n'est pas quelque chose d'impossible à connaître, c'est quelque chose qu'on connaîtra, il faut croire sans le voir et l'accepter, et ensuite c'est l'explosion de la vie et l'anéantissement de la mort. Donc, quand dans Apocalypse chapitre 11, verset 7, au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Ok? Vous devez savoir que c'est réellement, réellement, la résurrection des saints, la résurrection de tous ceux qui ont cru en Christ et qui sont mis à part et qui sont enlevés sur les nuées durant 7 ans et qui échappent aux tribulations. Quand je pense à tant de chrétiens malheureux sur terre, qui souffrent, qui ont la foi, qui persévèrent dans la foi, qui sont ignorés, qui sont humiliés, qui sont manipulés. Il y en a à peu près 780 millions de durement persécutés actuellement, plus des autres, hein, évidemment. Eh bien, toutes ces personnes seront les premières. Elles passeront devant nous. Quand les morts ressuscitent, elles vont suivre et... Si nous avons, nous, ici, dans les pays riches, nous avons eu suffisamment d'intégrité et d'obéissance envers la parole, nous serons derrière. Mais les derniers seront les premiers. Et c'est clair que l'éclatement de la vie, l'explosion de la vie de Christ, la victoire de Christ sur la mort, est bientôt. Je vous rappelle que la coalition Israël, Égypte, Émirats arabes, Bahreïn, Maroc, Jordanie est convenue pour résister à un assaut. Elle est convenue depuis 5 jours et de manière secrète dans le Negev, dans une base israélienne. Et de l'autre côté, depuis 3 semaines, une alliance entre l'Iran, la Turquie et la Russie est passée et ils sont passés aux actes. Ils envahissent le nord de la Syrie et de l'Irak, détruisent les Kurdes. Et il se dirige vers Israël. Donc Ézéchiel 38 n'est pas loin, et nous avons bien sûr la manifestation de la puissance de Dieu qui va exploser par les grêlons pour briser ses armées. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien se dire que les heures comptent maintenant, les heures comptent. Et je suis content pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont manipulés et écrasés. Mais pour les chrétiens qui réellement ne prennent pas au sérieux la parole de Dieu et ne vivent pas pieusement, il y a un grand danger de rester dans la tribulation. C'est pour ça que je prends ces textes, par amour pour tous, par amour pour tous, par amour de Christ et de sa parole. Le mystère de Dieu. Apocalypse 10, et ce mystère de Dieu, c'est au verset 7. Au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Donc aux apôtres et aux prophètes âgés, Malachie, Sophonie et bien d'autres, hein, Habakkuk. Et même Ésaïe, Jérémie. J'ai pris du temps au matin pour méditer chez tous ces prophètes et pour voir tout se tient. Il y a un consensus. Sans s'être fréquenté physiquement, moralement, sans avoir de smartphone, d'ordinateur, Ils ont dit les mêmes messages de la part de Dieu. Alors, prenons Apocalypse 11, versets 3 à 6. Donc, ce temple de Dieu qui est dans la ville sainte durant les tribulations sera foulé par les nations, mais Dieu va faire ressusciter Ésaïe et Moïse. Élie et Moïse. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours, donc 3 ans et demi. Ce sont les deux oliviers, les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Matthieu 17, sur le mont Hermon, la manifestation en gloire de Christ, sa transfiguration devant Pierre, Jacques et Jean, est en présence de Élie et Moïse. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Donc, Élie avait prophétisé que 3 ans et demi sans pluie arriveraient pour Acab et Jézabel pour arrêter cette folie meurtrière diabolique de Acab et Jézabel et pour ruiner l'armée. Eh bien, il y a aussi, de la part de Moïse, il y avait le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toute espèce de plaie, etc. Et donc, tout cela arrivera vers la fin des tribulations, afin que les Juifs, Israël, l'Israël endurci, l'Israël qui tient à son temple, et qui risque très fortement d'être séduit par l'Antichrist, jusqu'au bout, qui est séduit pendant presque toutes les tribulations, mais à la fin, l'authentique intervention de Élie et de Moïse et la venue de Christ vont confondre ces Juifs et les amener à la conversion. Pour nous, chers amis, le mystère de Dieu, c'est que tout ce qui était impossible humainement est possible pour Dieu. Et rappelez-vous, le psaume 87, tous sont nés à Jérusalem, même les Philistins, etc., Tyr, Sidon, Éthiopie, la Syrie, l'Égypte. Et à la fin du chapitre 19, à la fin du chapitre 18 de Ésaïe, il y a des prophéties concernant ce peuple d'Irak et de Syrie et d'Égypte, qui adore Dieu à Jérusalem. Il y a donc une réalité qui arrivera et que par la télévision, la radio et Internet, nous ne pouvons pas croire humainement. Mais avez-vous la foi, et je vous pose la question, vous reposez-vous sur ce que racontent les hommes ou sur ce que dit Dieu dans sa parole? Alors, que va-t-il se passer quand cette période très importante va se produire? C'est d'abord l'abandon de toutes les richesses. L'abandon de toutes les richesses. Prenons Matthieu 13. Cette course aux richesses, au butin sur la terre, qui conduit les multinationales et les grandes nations à plus de méchanceté, à plus de guerre, à plus de pollution, à plus d'injustice, eh bien cette course à la richesse sera complètement interrompue. Matthieu 13, versets 44 à 51. « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. » Donc c'est pas un trésor mis en banque, c'est pas un trésor humain, c'est pas un trésor fabriqué par la spéculation humaine. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Il y aura donc à la fin des tribulations, il y aura donc des gens qui vont abandonner toute leur richesse parce qu'ils ont la joie de trouver Christ grâce à l'intervention d'Élie et Moïse et l'apparition de Christ avec les mains et les pieds troués. Le verset 45, « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. » Donc, à partir du moment où ce riche marchand qui a plein de richesses, de belles perles, vend tout pour avoir la seule perle, c'est-à-dire Christ, il abandonne sa richesse. Il abandonne sa richesse, et cela correspond à des prophéties de Zacharie. Zacharie 14. Zacharie 14, verset 21. Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Apocalypse 18, 23. Apocalypse 18, 23. Je vais commencer au chapitre 18, verset 9. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche, au luxe, donc la grande société commerciale mondiale, capitaliste, hein, qu'elle soit de Shanghai ou de New York, tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche, donc au dérèglement, à désobéissance et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Comment une richesse économique mondiale peut-elle disparaître en une heure? Ben, on arrête les ordinateurs, c'est fini. Un crash boursier. Ou un accident informatique majeur. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, en cannelle, aromate, parfum, myrrhe, encens, vin, huile, fine farine, blé, bœufs, brebis, chevaux, chars, corps et d'âme, âme d'homme. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, ils diront « malheur, malheur », etc. Alors, un peu plus loin, je ne vais pas lire tout le chapitre, lisez-le, c'est très important. Au verset 23, « La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi ». La voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, car tes marchands étaient les grands de la terre, toutes les nations étaient séduites par tes enchantements, et il en a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Tes marchands, fini les marchands, fini les commerces, fini cette économie horrible qui humilie les êtres humains. Prenons Luc 16, 11. Luc 16, 11. Croyez-vous à l'autorité de la parole de Dieu? Chers amis, il est temps. Méditez-la, aimez la parole, aimez le Seigneur, et tout ce qui arrive est pour notre sanctification et pour l'affranchissement, la libération de tous les esclaves du monde, de toutes les victimes, pourvu que nous ne soyons pas, nous, auteurs de ces exactions, de ces injustices, nous-mêmes, tout en portant le nom de chrétien. Donc, Luc 16, verset 11. Je commence au verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, le dieu de l'argent des Phéniciens, de l'économie. Prenons Luc 17, 26. Luc 17, 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Bon, ce qui... Au point de vue scientifique, comment ce déluge s'est-il passé? On voit dans Genèse 6, et puis à d'autres passages, que c'est les sources du fond de l'abîme qui ont produit l'eau. Donc c'est le magma terrestre. Eh bien aujourd'hui, des scientifiques, depuis 3-4 ans, ont découvert dans les volcans de l'Islande que oui, le magma terrestre qui sort des volcans produit l'eau. Moi, j'en étais convaincu depuis longtemps, ayant fait de la chimie et de la physique, que tout ce qui se passe dans le cœur de la Terre produit l'eau. L'eau que nous avons dans les rivières, les lacs, les nuages, il y a des réservoirs d'eau pure. Et quand Dieu fera des nouveaux et nouvelles terres, il va faire sortir de cette eau. Parce que nous l'aurons tellement salie, dégradée, cette eau que Dieu a mis à notre disposition. Et nous en avons tellement privé certains, ou à l'avantage d'autres. Alors, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc, la fringale de se marier, de se démarier, de se remarier, etc. Et on oublie Dieu, bien sûr. On oublie Dieu. C'est le temps des passions. Le temps des passions. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Ici, en Europe, dans ma région, c'est clairement ça. C'est l'objectif premier. Avec la nourriture et le sexe. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et fit tous périr. Et effectivement, ne prenons pas ça à la rigolade, on a retrouvé les ruines de Sodome, il y a de ça 3-4 ans, 2-3 kilomètres en amont de la mer Morte. On a retrouvé toute l'enceinte de la ville de Sodome. Il y avait une seule porte où se tenait Lot pour exercer la justice. Et les murs sont vitrifiés. Pour que les pierres soient vitrifiées et que tous les corps humains qu'on a trouvés soient vitrifiés, instantanément, il faut 4000 degrés. Ce n'est pas le feu d'un volcan, comme à Pompéi. C'est vitrifié. Ainsi, la femme de Lot a été vitrifiée. Et pourquoi cela? Parce que en Sibérie, au Nevada, en Californie, on a trouvé aussi des sites où des météorites ont explosé et l'explosion de sous 4000 degrés de ces météorites a provoqué la vitrification instantanée de tout ce qui était alentour, à des centaines de mètres. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire, mes chers amis? Au verset 33, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Ce verset-là, pour moi, à 16 ans et demi, a changé toute ma vie. J'étais mélancolique, j'avais été désabusé par deux, trois amourettes, des déceptions amoureuses, et puis bon, le dialogue n'était pas terrible, en famille, et donc pratiquement, l'ambiance à l'école non plus n'était pas terrible. Eh bien, ce verset, quand j'ai lu, en secret, dans les champs, en travaillant, tout seul, sous le soleil, en piochant les pommes de terre, les patates et tout ça, les betteraves, j'ai trouvé ce verset, j'avais le moral au zénith et je l'ai toujours gardé. C'est vraiment l'Esprit Saint qui m'a touché. Bien sûr, c'est beaucoup plus tard que j'ai compris que c'était le Saint-Esprit qui m'avait touché par cette parole. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, celui qui la perdra la retrouvera. Donc, chers amis, vous êtes dans la situation où vous devez abandonner vos passions, vos habitudes, vos convoitises, charnelles, sexuelles, matérielles, économiques, et vous devez choisir Jésus-Christ. Vous devez, vous êtes invité. Vous n'êtes jamais obligé avec Dieu. Dieu a donné la liberté. Dans Deutéronome 30, verset 5, choisis, il y a deux chemins, celui qui mène vers la mort, celui qui mène vers la vie. C'est Dieu qui le dit par la bouche de Moïse au peuple d'Israël. Ainsi, pour nous, c'est la même chose. L'abandon de nos richesses, c'est extrêmement important. Pourquoi? Prenons Luc 21. Luc 21, verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Désolation est proche. Verset 22, ce sont des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Donc au verset 20, Jérusalem occupée par les armées de l'ONU. Pourquoi? Pour garantir un accord de paix entre Hamas, entre les Palestiniens et fidèles à l'Iran et les Juifs. Mais comme il y a des excités et des arrogants de chaque côté, il faut bien des soldats des nations, qui ne sont pas d'ailleurs meilleurs qu'eux, mais enfin voilà. Et c'est un signe très important qui va bientôt arriver. Il y a d'autres signes. Il y a d'autres signes. Beaucoup de personnes tomberont sous le tranchant de l'épée et seront amenées captives parmi toutes les nations. Sous le tranchant de l'épée. Nous savons très bien que dans beaucoup de pays, on ne tue plus. Dans les pays démocratiques. Dans certains pays, on pend. Dans d'autres pays, on fait l'injection mortelle. Dans d'autres pays, on CHS électrique. Mais certaines régions et certaines religions décapitent. Et donc, il y a un exercice de l'épée. Et cette épée, Jésus a dit, celui qui manie l'épée périra par l'épée. Donc, il est clair que ça ne durera pas longtemps, cette tribulation, et que ceux qui utilisent cette épée vont être brisés eux-mêmes par l'épée. Verset 25, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et les étoiles, sur la terre de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. C'est déjà le cas dans beaucoup d'endroits, hein. Bon, les gens ne savent plus quoi, hein. Vous savez, toute cette histoire du Covid et du masque, ça a permis de tester les gens et de savoir qu'ils se soumettent et qu'ils sont prêts pour que l'Antichrist vienne. Pour une soumission domestique, comme des animaux sont domestiqués. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre et sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Christ venant sur la nuée pour enlever les siens, pour enlever ceux qui croient en lui, pour enlever ceux qui ont donné leur vie à lui. Il n'y a pas besoin d'être intellectuel pour donner sa vie à Jésus, n'est-ce pas? Il suffit d'avoir un cœur repentant et sincère, et de l'amour pour lui. J'ai prêché devant des milliers de personnes au Bénin, 10% savaient lire, 5%. Pourtant, leur cœur était abondamment couvert par la grâce. Il y a des intellectuels, il y a des gens qui vont à l'école, évidemment. Mais ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup de gens ne savent pas encore lire. Ce n'est pas une honte, chers amis. Alors, ils disent aussi, verset 29, il leur dit une comparaison, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Le figuier reverdit, c'est Israël. Et en 2008, en visitant le tombeau d'Étienne, dans une petite colline où il y a une petite abbaye catholique, quatre vieux prêtres, derrière l'église, il y a un dépôt énorme, des milliers de Bibles avec le Nouveau Testament, dans toutes les langues du monde. Et les gens qui rentrent là, qui sortent de l'église, ne prennent pas de photos de l'église, pourtant elle est jolie. Nous ici en Europe, on a l'art d'adorer les pierres, pas Dieu. Eh bien là, ils rentrent et sortent, et puis tout compte fait, ils vont derrière, et ils prennent des Bibles avec le Nouveau Testament, et repartent. Et le plus vieux des prêtres, 95 ans, 95 ans, m'a dit, il y en a 100 à 110 000 qui viennent chercher des Bibles. Donc le figuier est reverdi. Israël est prêt à la conversion, à accepter Jésus. Quand il va montrer ses mains et ses pieds, transpercés sur le mont des Oliviers. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc clairement, l'abandon de tout nos préoccupations habituelles, qui dévorent notre vie, qui nous occupent, pour nous tenir près de Christ. Verset 34, prenez garde à vous-même, blaipéo, examine-toi toi-même et rapproche-toi de Christ. De crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Donc on voit ici que quand les gens ont de l'angoisse, ils mangent plus, ils consomment plus, enfin s'ils ont la possibilité économique de le faire. Et ils boivent plus. Donc ça correspond à Luc 17, comme nous avons lu. Car, verset 35, il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, de paraître debout devant le Fils de l'homme. Jamais Jésus n'a fait tomber quelqu'un par terre, en laissant croire que c'était le Saint-Esprit qui le faisait tomber par terre. Ça, c'est dans les églises d'apostasie. Jésus a toujours relevé les hommes. Jésus a toujours voulu que l'homme soit dans sa gloire et dans la dignité, et affranchi de toute douleur, toute misère, de tout péché, de tout esclavage, de tout asservissement. C'est le programme de Dieu, les amis. C'est le programme de Christ, de Jésus-Christ. Donc, ces filets, il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Jésus, un filet? Oui, Matthieu 13. Jésus serait-il comparé à un filet? Matthieu chapitre 13. Bizarre, mais c'est lui-même qui a annoncé ça. Matthieu 13, verset 47, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer. La mer représente toutes les nations dans le chaos du péché. N'oubliez jamais ça dans le langage biblique de l'Évangile. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Il s'agit bien sûr d'humains, dans ce cas-ci, puisque Jésus a envoyé les apôtres pour pêcher, aller pêcher, mais cette fois-ci des hommes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, donc les apôtres, et après s'être assis sur le rivage, donc les apôtres sont là avec Jésus, quand il revient, ils mettent dans des vases ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Des vases d'honneur présentés à Dieu le Père, des couronnes d'or, des vases d'or, dans lesquels tous ceux qui ont accepté Jésus sont mis à l'honneur. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants avec les justes et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Donc Jésus est comparé à ce filet qui revient, qui vient sur le monde et qui tout d'un coup, il opère un jugement avec ses apôtres. Donc nous devons bien comprendre que le mystère de Dieu est annoncé et qu'il est compréhensible. J'essaie de vous l'expliquer. Pourquoi? Pour que vous le mettiez en œuvre. Que vous choisissiez. Alors, la sexualité. La sexualité, mes amis, c'est quelque chose qui dévore le monde. Et depuis 50, 60 ans, Hollywood, qu'on appelle bois sacré, Hollywood c'est bois sacré. Et vous savez, dans tous les pays où il y a la sorcellerie, où on initie les chefs de tribus, on initie tous les futurs sorciers, c'est dans des bois sacrés. Comme par hasard, Hollywood, c'est bois sacré. Et c'est là qu'on a fait, avec l'aide de toutes les églises sataniste, de Katia et Nadia Fox, depuis 1864, 1864 ou 57, on a initié énormément d'églises sataniques. Katia et Nadia Fox avaient un don de guérison, mais elles liaient les gens à Satan. Et elles ont eu sur 6 mois de temps, 16 ans et 17 ans, 400 000 adhérents. Et elles ont initié des gens à l'occultisme, à la tyrannie diabolique. Et dans tous ces gens-là, beaucoup ont créé des groupes de hard rock, musique, hard metal et d'autres choses qu'on voit encore sur les smartphones, dans les films, etc. Regardez Netflix, c'est pas brillant, hein? À part deux, trois bons films dans Netflix, tout le reste. Eh bien, pratiquement, vous avez à Hollywood essentiellement 85% de gens liés à Satan qui font des films, qui font n'importe quoi pour entraîner le monde dans l'orgie, dans la déviation sexuelle, dans l'impureté satanique, comme au temps des Cananéens sous les térébintes. Ce sont les grands Cananéens du monde, les acteurs de cinéma d'Hollywood. Combien je suis content quand je vois mes filles qui regardent des films faits par des acteurs de cinéma chrétien de Corée du Sud ou des films faits par des Indiens, des chrétiens, des films propres. Et vous savez, dans certains pays musulmans, l'Indonésie et tout ça, on produit des films propres aussi. Eh bien, tous ces gens seront à l'honneur certainement quand Jésus va revenir. L'abandon de la sexualité, de la fureur à la débauche, et de rites de mariage répétés, regardez combien de fois quand on allait chez le dentiste, à l'hôpital, avant le Covid, sur les petites tables dans la salle d'attente, il y avait plein de revues, c'était toujours des mariages, remariages, et des tenues provocantes des actrices, des acteurs, etc. La propagation de la luxure. Je trouvais que le Covid avait du bon de ce côté-là, il n'y avait plus rien sur les tables, de peur qu'on ait des microbes. Mais on a eu peur des microbes, mais on n'a pas eu peur des esprits impurs. C'est bizarre. Or, les esprits impurs, lorsqu'ils rentrent dans la vie de quelqu'un, ils provoquent ensuite l'endurcissement, la méchanceté, le mensonge, la haine, l'adultère, l'accusation, la division. La première étape de la chute, c'est toujours l'impureté. Puis la cupidité et l'argent. Hein. Alors, l'abandon de la sexualité, des rites de mariage répétés et de la mise en valeur outrancière des mariages. Car un mariage se fait dans l'humilité, un mariage se fait dans la vérité du cœur, de l'amour, en présence de Dieu et avec Dieu. C'est un mariage à trois. Ce n'est pas un mariage dans la luxure et avec le diable. Car tous ces mariages ne durent jamais. Donc, il est clair que Jésus a dit qu'à un moment donné, lorsque dans le royaume, il n'y aura plus besoin de se marier, il n'y aura plus besoin. C'est bien sûr un scandale pour certains, parce qu'ils pensent toujours qu'ils vont pouvoir se payer du bon temps au niveau sexuel. Alors, Jésus a dénoncé cette situation où les hommes et les femmes voulaient encore, dans l'au-delà, dans le monde de l'au-delà, être des pervers sexuels. Luc 20, à la résurrection, verset 33, à la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme ? Une femme qui avait marié sept frères successifs parce qu'elle n'avait pas d'enfants avec ses frères-là. Car les sept l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle, Aïon, de cette période-ci, humaine, avant le retour de Jésus, prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, donc au royaume de Dieu, à la résurrection des morts, ne prendront ni femme ni mari. Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Ils ne prendront plus homme ni femme. Pourquoi ? Parce que la plénitude de Dieu dans leur cœur, dans leur vie, dans leurs émotions, dans leur tendresse, leur affection, tout sera rempli. Et ce n'est pas la négation du mariage. Non. Mais c'est que le temps du mariage sera fini. Donc, dans le royaume de Christ, c'est l'abandon de la sexualité pour la sexualité. C'est l'abandon des rites de mariage répétés. Et s'il naît des personnes dans le royaume de Christ, ce seront hommes et femmes qui se comportent comme des anges, c'est-à-dire de manière sainte, et leur affection et leur tendresse et leur procréation seront saintes. Ensuite, un troisième point, dans cette période, ce grand mystère où l'ange retentit, fait retentir sa trompette, c'est l'accueil des persécutés, c'est l'accueil de tous ceux qui souffrent. Car à la fin des tribulations, beaucoup d'Hébreux, beaucoup de Juifs vont se rendre compte qu'ils ont fait fausse route et ils vont être martyrisés. C'est Matthieu 25, « J'étais nu, j'étais affamé, j'étais prisonnier, hein, mais quand avons-nous vu Seigneur, etc. Mais chaque fois que vous l'avez fait, l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Cette parole qui se trouve dans 25, Matthieu 25, versets 45 et 48, c'est clairement pour cette période où cet Israël endurci lâche tout et se convertit. Selon des dizaines de prophéties dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, Agée, Sophonie, Zacharie, Habacuc, et bien sûr, c'est une richesse phénoménale, plénière qui tombe tout d'un coup dans les cœurs et les âmes d'Israël. Mais il y a aussi des gens dans les nations qui eux-mêmes étaient endurcis, à l'image d'Israël qui les suivait, qui cèdent leur cœur à Jésus, à Christ, au Fils de Dieu et au Saint-Esprit. Donc l'accueil des persécutés est un point de repère pour Dieu. C'est là qu'il voit les vraies personnes dignes de lui. L'accueil des persécutés. Aujourd'hui déjà, il y a plein de persécutés sur la terre. Il y a plein de gens malheureux. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre attitude à leur égard? Votre endurcissement vous conduira au châtiment éternel. Votre cœur ouvert et votre dynamique pour aimer ces gens vous ouvrira la faveur de Dieu. Et sachez bien qu'avec les problèmes climatiques, ce n'est pas 3, 4, 5 ou 15 millions de réfugiés. C'est peut-être 1,5 milliard, 2 milliards de réfugiés climatiques. Plus tous les conflits en cours. Qu'allez-vous faire, chers amis? Quelle sera votre attitude? Nous sommes mis en demeure d'être comme Christ. De tout être, tout en nous soit comme Christ. Le refus de confesser, le refus envers l'Antichrist, le refus d'un tyran mondial qui justifie tous ses moyens pour séduire les hommes et qui amène la cruauté, qui amène la pollution, qui amène les guerres, le refus de cet homme puissant qui a des pouvoirs d'ensorcellement sur les populations, qu'on appelle l'Antichrist. C'est une caractéristique de tous ceux qui vont être gardés par Jésus pour la vie éternelle et pour son royaume. Le refus de l'Antichrist, le refus de tout ce qui est en train de tromper l'homme encore aujourd'hui, et ça sera encore pire dans 6 mois, 1 an, le refus du grand menteur qui dirigera le monde. Il est certainement né, il est déjà en train de préparer son trône. Nous sommes au test. Nous sommes mis au test, nous sommes mis éprouvés. Qui allons-nous choisir? Christ ou ce grand menteur diabolique qui séduira les hommes pour leur perte? Nous devons aussi savoir que dans cette période de tribulation, et déjà avant les tribulations, il faut accepter le sacrifice de soi-même. Il faut accepter l'acceptation d'une vie donnée à Dieu. Apocalypse 6, versets 9 à 11. Dès aujourd'hui, chers amis, entraînez-vous, exercez-vous à la vie spirituelle chrétienne authentique. Demandez des grâces à Dieu, priez, jeûnez, invoquez le Seigneur, lisez sa parole, méditez-la. Fréquenter des hommes et des femmes qui aiment la vérité. Chapitre 6, versets 9 à 11, dans Apocalypse. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel, au ciel, les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu durant la tribulation. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître, Saint véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang ?» sur les habitants de la terre. Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux, il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc on voit clairement que la Bible veut nous rendre conscients, et que nous avons une destinée éternelle. Elle vaut beaucoup mieux qu'une destinée temporelle sur terre, bâclée, soumise à l'Antichrist, dans le péché, menée selon le train de ce monde, et sans issue éternelle. Positive. Prenons Apocalypse chapitre 12, versets 11 à 17. Chapitre 12, versets 11 à 17. Verset 10. Chapitre 12, verset 10. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. C'est Satan. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, de Jésus donc, et à cause de la parole de leur témoignage, leur engagement pour le Christ. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, donc tous les anges, les archanges, les saints qui sont dans le ciel, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, donc à tout ce qui se passe durant la tribulation, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien sûr, Satan, à cette époque-là, s'en prend, si vous lisez les versets qui suivent, à Israël. Il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Il s'en prend à Israël. Chapitre 17, verset 6. Sur son front était inscrit un mystère. Babylone la Grande, la mère des prostituées, des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Donc, on voit que la Grande Babylone, la grande civilisation, est ivre de persécuter, ivre de faire disparaître les enfants de Dieu et les disciples de Jésus. Ou toute personne qui, dans une autre religion, cherche déjà Jésus. Ça suffit pour Satan. Satan est déjà averti, il va déjà s'en prendre à la personne. Donc, c'est de l'ivresse. C'est une obstination irréductible de la part de Satan. Et cette grande civilisation a un nom. Elle a un nom. C'est la grande Babylone. Elle a un nom. Mais c'est un mystère. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va se dévoiler. Elle sera brisée. Elle sera coulée. Au verset 14. Ils combattront contre l'agneau. L'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront eux aussi. Nous voyons donc que la victoire spirituelle est la plus importante, chers amis. Si vous connaissez des échecs et des persécutions et des tribulations, n'oubliez pas que Jésus les a subis. Les vrais chrétiens acceptent de marcher dans le chemin du Seigneur Jésus, au moment où ça tourne mal. Je suis en train de lire un livre sur une jeune femme du Luberon qui a été persécutée par la police française ou les armées françaises et les papes et les évêques à l'époque de Louis XIV. Quelle noblesse de cœur, quelle grandeur cette jeune fille et quelle cruauté inaltérable, cette cruauté organisée, sadique, perverse, à son égard et à l'égard de ses amis. Bien sûr, on ne parle pas des hommes, ils sont déjà dans les galères en train de souffrir et y mourir. Mais, clairement, ce système impitoyable, moi je le vois, il existe toujours en France. Dès qu'on donne des ordres à la gendarmerie, à la police, ils les exécutent. Tous nos systèmes policiers et nos armées sont prêtes à exécuter les mauvais desseins de la bête, de l'ONU, des mauvais desseins de l'Antichrist. Ils sont prêts. À part à de rares exceptions, je connais un policier qui a quitté parce que son cœur n'en pouvait plus de devoir faire des procès, des amendes à des gens alors qu'il ne voulait pas en faire. Il était poussé par ses collègues et ses supérieurs, en fait. Et donc, je tairai son nom, mais c'est un brave homme. Alors, il est toujours temps de sacrifier quelque chose de notre carrière, de nos caprices, de notre confort, pour être dans la vérité et ne pas se compromettre. Et n'oubliez pas, préparez-vous, choisissez déjà maintenant. Car dans la tribulation, le choix sera encore plus difficile pour ceux qui vont y rester. Ceux qui ne choisissent pas maintenant ne peuvent pas être enlevés. Ils iront dans les tribulations et soit ils baisseront la garde, ils accepteront tout, sont soumis à l'antéchrist, à Satan, ou ils se révolteront, mais ils souffriront. Une conversion a lieu, elle est très puissante, une conversion a lieu, elle est très 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 puissante, même dans les tribulations. Chapitre 14, verset 4. J'entendis
du ciel cette voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. La voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de la harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, c'est-à-dire avec la prostitution de Satan, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne se point trouvés de mensonge, car ils sont irréprochables. Point de mensonge. Retenez bien ce mot, point de mensonge. Dans chapitre 21 et 22 de l'Apocalypse, dehors les menteurs. Attention, je pense que c'est le gros problème qui court dans beaucoup de vies de chrétiens, en Europe en tout cas, et peut-être même autre part. Au chapitre 14, versets 12 et 13, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. J'entendais du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit Saint, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et donc, tout de suite après, il y a l'apparition de Christ qui vient les chercher. Et donc, la conversion et la protection. Bien sûr, la protection de qui? En priorité d'Israël. Parce que l'objectif principal de Satan, c'est de l'anéantir. C'est le peuple des prophètes et de Jésus. Et le plan de Dieu, c'est que Israël serve. Israël sert, racheté, bien sûr, les 144 000 servent Christ. Donc Satan est contre ce projet et il n'en veut pas du tout. Il n'en veut pas. Donc il faut absolument savoir ceci, c'est que le programme de Dieu est contredit continuellement par Satan. Continuellement. C'est au chapitre 12... Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur la tête, était enceinte, elle criait, était en travail, dans la douleur d'un enfantement. Cette femme, c'est Israël. L'enfant, c'est Christ. N'est-ce pas? Les 12 étoiles, c'est les apôtres. Pour l'Église catholique, enfin certains catholiques, c'est Marie. N'est-ce pas? Avec les apôtres, etc. Mais toujours est-il, cette femme, nous allons continuer à lire. Un autre signe parut encore dans le ciel. Voici, c'est un grand dragon rouge-feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, le grand dragon qui prend puissance dans le monde, c'est la Chine actuellement, ayant 7 têtes et 10 cornes, 7 têtes, le groupe des G7, les 10 cornes, c'est 10 royaumes bioéthiques qui ont été fondés en 2009, et qui dirigent le monde, et qui sont en train de jouer avec les gens, avec des bactéries, des masques, des vaccins, etc., les 10 royaumes bioéthiques, et si vous en voulez plus, chercher, en 2009, les 10 royaumes bioéthiques. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Donc, c'est Satan qui entraîne le tiers des anges révoltés sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Donc, Satan veut dévorer Israël, mais en même temps, nous voyons bien que dans d'autres textes, les rois de l'Orient viennent pour envahir, bien sûr, là, Israël. et la détruire, les rois de l'Orient. Donc c'est à la fois humain et c'est à la fois spirituel. Faites bien attention, chers amis, tout se tient dans la Bible. Et qu'est-ce qu'il est dit? Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ce qui est le cas maintenant de Christ. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours, 3 ans et demi. Donc une partie d'Israël va être sauvegardée dans le Néguev. Et ils ont déjà tout préparé, puisqu'il y a des captages d'eau énormes, il y a des cultures de poissons, il y a des cultures de légumes, etc. Tout est préparé déjà. Ils savent ce qui va leur arriver. Donc aujourd'hui, je ne peux pas tout dire. C'est très long. C'est très long. Ce sujet est très vaste. Je vais en rester là actuellement. J'y reviendrai plus tard quand l'actualité me poussera à intervenir. Sachez bien que Israël sera rétabli. Sachez bien que des peuples alentour d'Israël vont se convertir, adoreront le Seigneur. Sachez bien que Satan n'aura pas le dernier mot. Mais vous, moi, soyons en ordre avec le Seigneur, fidèles et obéissants. Et n'oublions pas les chrétiens qui souffrent sur la terre. N'oublions pas que 1,5 € de notre poche, à nous chrétiens ici, c'est une journée de travail de 15 heures d'une famille au Pakistan, à faire 2000 briques, sous 46 degrés de soleil. Ce sont des chrétiens, ce sont nos frères et nos sœurs dans le sang de Christ. Donc notre solidarité est toujours nécessaire. Au Bénin, en Afrique, partout, il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin. Il y a des personnes ici, dans nos églises parfois, qui sont malheureux, qui manquent de visite, qui manquent de soutien, qui aiment le Seigneur. Est-ce que nous les visitons? Est-ce que nous les aimons comme des frères et sœurs? Réellement, comme Christ nous le demande. On vous reconnaîtra ce signe, c'est que vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Gloire à Dieu et à bientôt.